L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. Engagés dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 55, 56, 57, 58 et 59e épisodes du podcast Bâtissons des futurs solidaires, rendez-vous à l'Université de Reims, chaire ESS, pour poser la question. L'ESS était l'actrice d'une santé autrement. Bonjour Anne Malouli, vous êtes médecin généraliste, gériatre et diplômée en sciences sociales. En 2015, comment vous est venue l'idée de créer Altémis ?
Alors, j'ajouterai à la présentation que je suis aussi entrepreneur social. Et en fait, j'ai décidé de créer une entreprise sociale et solidaire parce que j'avais constaté dans ma pratique médicale un besoin non couvert sur l'accompagnement des aidants. En fait, je constatais souvent qu'il y avait des aidants qui étaient en difficulté. Alors, je l'ai constaté à la fois quand j'étais en pratique libérale en tant que médecin généraliste et puis après en tant que médecin coordonnateur en EHPAD. Et je me suis dit, c'est quand même très dommage de ne pas pouvoir accompagner ces aidants parce qu'en fait, ça impacte aussi la prise en charge des proches accompagnés. Et donc, l'idée initiale qui m'était venue en tête, c'était de créer un lieu physique pour accueillir à la fois les aidants et les personnes qui étaient accompagnées. Parce que souvent, quand on propose des choses aux aidants, la question derrière, c'est qu'est-ce que je fais de mon proche quand je vais sur un lieu physique. Et donc, c'est de là qu'est venu le nom, en fait, de l'entreprise, puisque les aidants, souvent, ils ne se reconnaissent pas dans ce terme-là d'aidant. Et j'avais trouvé qu'en langage des fleurs, l'anthémis, qui est le nom scientifique de la camomille, ça signifie énergie dans l'adversité et attachement profond. Je me suis dit, mais ça symbolise complètement les aidants, donc je voulais créer une halte pour les anthémis. Donc voilà, c'était l'idée initiale de proposer ce lieu d'accueil pour le binôme aidant aidé. Et puis c'était quand même assez compliqué, donc en 2017, j'ai pivoté pour arriver à la forme actuelle d'Altémis.
Très bien, merci infiniment pour cette première présentation. Alors, je reviens sur le fait que vous soyez diplômé en sciences sociales. Comment ce diplôme est-il venu, je dirais, interagir ou agir en tout cas avec votre pratique de médecin généraliste, gériatre aussi, hein, je le reprécise, que vous soyez en médecine libérale ou en EHPAD ?
J'ai eu l'opportunité de faire un master 2 en sciences sociales quand j'étais chef de clinique de médecine générale. Et c'est comme si tout à coup, on m'avait retiré des œillères. Parce que dans nos études médicales, on est très focalisé justement sur le côté médical pur. Alors, on a un petit peu de formation en sciences sociales, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, du saupoudrage. Et là, la découverte de la sociologie, et notamment la sociologie des organisations, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça m'a permis de regarder aussi tout mon environnement avec un œil différent. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis devenue sociologue, mais vraiment, j'avais pris l'habitude de regarder des façons de fonctionner en disant, mais alors ça, c'est dommage parce qu'on pourrait faire comme ci, comme ça et changer ça. Et donc, l'entrepreneuriat social, ça a été la façon pour moi de mettre à profit tout mon bagage de formation, en fait, dans l'entreprise que j'ai créée. Je me sers à la fois de mon cursus de médecin généraliste, de mon cursus de gériatre et en même temps de mon cursus en sciences sociales et puis accessoirement de mon cursus aussi d'ancienne aidante, ce que je n'avais pas du tout perçu avant de travailler sur le sujet parce qu'à l'époque où j'avais moi-même été aidante, je ne percevais pas que j'étais une aidante. Mais tout ça aussi, je pense que voilà, ça m'a sensibilisée et qui fait que je suis arrivée à ce projet.
J'aimerais savoir comment vous avez monté ce projet, quelles aides ou soutiens êtes-vous allé chercher et puis sur quel modèle financier vous fonctionnez.
Alors au départ, j'avoue que c'était vraiment une idée très très personnelle. J'avais vraiment aussi très clair en moi l'idée que ça devait s'inscrire forcément dans l'économie sociale et solidaire. Mais comme j'étais toute seule justement et que je n'y connaissais rien, j'ai d'abord décidé qu'il fallait me former. Donc j'ai cherché à me former et à me faire accompagner. Je me suis formée à l'ESSEC. J'ai suivi une formation courte qui était proposée par Vivienne de Beaufort et qui s'appelait Entreprendre au féminin. Je suis pas sûre qu'elle existe encore actuellement. Et parallèlement, j'avais trouvé un ancien expert comptable à la retraite qui trouvait que le projet était chouette, qui était lui-même ancien aidant. Donc, il était encore aidant à cette époque-là, il était aidant. Donc, ça lui parlait et donc il m'aidait sur toute la partie, on va dire, création du business plan. Puis en 2016, à l'issue de la formation à l'ESSEC, j'ai eu la chance d'être incubée chez Entropia dans un programme qui s'appelait le programme Shake-up, où on était encore sur secouer les idées. Et donc, ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat et d'acquérir, on va dire, un vocabulaire sur entrepreneurial. En 2017, je me suis rendu compte que, j'avais vu quand même vraiment très gros. C'était compliqué de trouver des partenaires financiers. Alors, pour plein de raisons, hein, parce que déjà, en 2017, c'était encore un peu jeune sur le sujet. On parlait pas encore beaucoup des aidants. En plus, personne ne me connaissait. Enfin, j'étais pas un médecin célèbre. Je proposais quelque chose qui rentrait pas dans les cases. J'utilisais pas forcément le bon vocabulaire parce que je parlais de lieu d'accueil multiservice, alors que maintenant, je me dis, j'aurais mieux fait de dire tiers lieu. Mais à l'époque, ça me venait pas en tête. Et puis, en plus, je voulais pas du statut associatif. Et ça, c'était compliqué. En 2016, ESS, c'était encore très associés à associations. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que ça a été compliqué pour moi de trouver des partenaires. Et donc en 2017, j'ai décidé de pivoter. Et au même moment, j'ai été accompagnée par Ticket for Change. J'ai fait le tour Ticket for Change 2017. Et c'est là que vraiment on s'est mis en forme, la forme actuelle d'Altemis. Donc Altemis, en fait, c'est une entreprise de service qui propose des outils aux aidants et à ceux qui les accompagnent. Et l'idée, c'est de former, d'informer et de conseiller. Et j'ai décidé, pour créer Altemis, de développer cette entreprise au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. Donc pour les gens qui connaissent pas les coopératives d'activité et d'emploi, c'est un peu comme une structure de portage salarial, mais en même temps avec un accompagnement qui fait qu'on est un peu comme dans une couveuse. Et moi, c'était vraiment ce que je cherchais, puisque comme c'était quand même pas mon métier de base, que je restais fondamentalement médecin, j'avais besoin de me dire, si j'ai des questions, je peux tout de suite les poser à quelqu'un, et puis de me sentir dans un environnement bienveillant avec d'autres entrepreneurs. Donc c'est la forme que j'ai gardée depuis.
Peut-on faire un petit focus ou donner une définition de ce que sont les aidants et de ce que vous leur proposez ?
Oui, alors les aidants, il faut savoir que ça concerne un adulte sur six, ça concerne aussi des mineurs, hein. Un mineur de 5 à 18 ans sur 20 est un aidant, et un aidant, en fait, c'est une personne de l'entourage proche de la personne aidée. Donc la personne aidée, c'est une personne qui a soit un handicap, soit une maladie, soit une dépendance liée à l'âge. Cet aidant, il entretient avec la personne aidée des liens étroits et stables, il lui vient régulièrement et fréquemment en aide, et puis surtout, il intervient à titre non professionnel et bénévole la plupart du temps. Alors, je dis non professionnel parce qu'on peut être un professionnel de santé et se retrouver aidant, mais la plupart des aidants, en général, n'ont aucun bagage sur l'accompagnement quand ils deviennent aidants. Et la plupart des aidants ont ce rôle-là de façon bénévole. Dans quelques rares cas, il y a quand même la possibilité de se faire rémunérer pour son rôle d'aidant si, à cause de cette situation-là, on est obligé d'interrompre son activité professionnelle. Mais bon, voilà, ça ne concerne vraiment qu'une minorité des aidants. La plupart des aidants sont dans ce rôle-là bénévolement.
D'accord, souvent des femmes, quel âge en moyenne ?
Oui, alors c'est plus fréquemment des femmes, hein, on va dire grosso modo 60% de femmes, 40% d'hommes, et la population, la tranche d'âge la plus représentée, c'est ce qu'on appelle la génération pivot, donc de 35-40 ans jusqu'à 60-65 ans, et on l'appelle génération pivot parce que justement souvent ces aidants, ils sont à la fois aidants d'un proche âgé et en même temps encore parents, et d'ailleurs certains sont même multi-aidants parce qu'on peut être aidant d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant. Donc, il y a certaines personnes qui cumulent les rôles d'aidant.
D'accord. Anne, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous proposez de façon concrète, ce que propose Altemis, et nous dire également si, au travers de votre proposition, vous permettez à ces aidants de gagner en autonomie ?
Oui. Donc Altemis, je vous l'ai dit, c'est une sorte de boîte à outils pour les aidants avec trois missions. Je m'adresse à la fois aux proches aidants, mais aussi aux aidants professionnels et aux entreprises. Alors pour les proches aidants, l'idée, c'est de proposer des outils gratuits, ou alors s'ils ne sont pas gratuits, j'essaye de trouver des partenaires financiers pour justement que les proposer gratuitement aux aidants. Donc on est sur un fonctionnement B2B2C. Ça peut être par exemple un blog, une newsletter, des webinaires, des programmes d'accompagnement. Je co-construis aussi des offres de services, soit avec des acteurs nationaux, comme par exemple la Compagnie des aidants, avec laquelle j'ai travaillé sur le développement de parcours de formation en ligne, ou avec des acteurs locaux. Ça fait bientôt 4 ans que je travaille avec une association qui porte un clic près d'Épernay. Ça fait aussi 3 ans que je travaille avec une plateforme de répit dans la Meuse. Donc ça, c'est vraiment les outils pour les proches aidants. La deuxième mission, c'est de sensibiliser et de former ce que j'appelle les aidants professionnels. Donc c'est les professionnels de santé, les professionnels du soin, du domicile, les travailleurs sociaux. Donc là, on est plutôt sur un modèle organisme de formation. Et puis la dernière mission, c'est de s'adresser aux entreprises qui ont envie d'adresser cette thématique-là des aidants salariés dans leur démarche RSE. Et sur cette partie-là des missions, je me suis associée avec une juriste en droit social qui est dans la même coopérative que moi. Et on a co-construit toute une offre à destination des entreprises qui va de la sensibilisation jusqu'à la formation et au conseil aux entreprises.
Donc on est bien d'accord, Anne, que vous êtes dans une action permanente d'éducation adressée aux aidants ou aux professionnels ou aux entreprises.
Puis l'idée, c'est aussi de permettre aux aidants de gagner en autonomie. Alors, à la fois les particuliers, puisque l'idée, c'est de leur faire acquérir des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner sans s'épuiser. Parce qu'encore une fois, je vous disais, enfin, c'est pas naturel de devenir aidant, c'est un rôle qui s'apprend. Et puis, ça permet aussi, si on parle de l'entreprise, aux managers, aux responsables RH, de gagner aussi en autonomie sur l'accompagnement de ce public. Là, on sait qu'en 2024, hein, c'est un salarié sur cinq qui est aidant, et d'ici 2030, l'adresse nous dit que ça sera un salarié sur quatre. Donc quand vous avez 25% de vos effectifs qui sont dans cette situation-là, c'est quand même intéressant de savoir comment accompagner ces salariés-là.
Alors, on entend bien le caractère d'urgence, donc d'où mes deux petites questions en guise de conclusion. Un point sur lequel il y a encore des pas à faire, selon vous, et puis un espoir peut-être pour une évolution d'Altémis.
Alors, c'est sûr qu'il y a une urgence puisqu'on est dans une révolution, enfin, on vit une révolution démographique et on sait que la population vieillit. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que tous les vieux deviennent dépendants, mais quand même sur la population de personnes âgées, il y aura de plus en plus de personnes dépendantes. Donc, le nombre d'aidants va encore augmenter dans les années à venir. Et l'espoir que j'ai, c'est que cette connaissance du mot aidant, elle progresse. Parce que pour l'instant, même si on voit qu'elle progresse, il y a encore beaucoup d'aidants qui ne se perçoivent pas comme tel, alors soit parce qu'ils pensent que c'est normal, parce que c'est mon enfant, c'est mon conjoint, c'est mon parent, soit parce qu'ils minimisent leur rôle en se disant oui, mais alors moi ce que je fais par rapport à d'autres, c'est quand même pas grand chose, ou alors soit parce qu'ils sont pas l'aidant principal. Et je donne souvent l'exemple des petits enfants parce que je rencontre soit en entreprise, soit dans les universités, des petits enfants qui me disent ah là là, ce que vous proposez, ça pourrait vraiment servir à mes parents qui accompagnent mes grands-parents. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun prenne conscience qu'à son niveau, on peut être aidant en étant un passeur d'informations. Même si on n'est pas l'aidant principal, on peut quand même transmettre l'information. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les outils servent aussi comme une chaîne d'informations jusqu'à l'aidant principal qui en a réellement besoin.
Très bien, merci. Et alors, une attente maintenant pour Altémis, pour conclure.
Alors moi, j'ai encore énormément d'idées que je voudrais développer. J'ai pas abandonné l'idée d'ailleurs de développer un jour le lieu physique initial. Et donc, l'envie, ça serait de continuer à faire grossir mon équipe et à trouver des partenaires pour développer tous ces services. Parce que la vision qui m'anime, en fait, c'est qu'un jour, il soit facile pour les aidants d'être à la fois compétents, en forme et épanouis dans cette situation d'aidant.
Eh bien, merci Anne Malouli pour cette présentation extrêmement claire. Merci à vous. Merci infiniment à l'Université de Reims, cher ESS, d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.